Bonjour, au micro Idrissa Sedoudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a signé hier un décret ordonnant une réforme limitée des forces de l'ordre pour tenter de répondre au mouvement historique de colère contre le racisme aux États-Unis. Nous y reviendrons dans un instant avec Eric Manirakidza. Au Nouveau-Mexique, toujours aux États-Unis, un homme a été grièvement blessé lundi par des tirs lors d'un rassemblement contre une statue coloniale, alors qu'une milice d'extrême droite, lourdement armée selon les autorités, était venue contre-manifester. Et un sergent californien de l'armée de l'air ayant des liens avec un groupe d'extrême droite a été inculpé hier du meurtre d'un policier de la ville d'Oakland durant une récente manifestation antiraciste, l'un des deux agents qu'il est accusé d'avoir tué. Les États africains font campagne pour que le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies lance une enquête sur le racisme systémique et la violence policière aux États-Unis et d'autres pays, selon un projet de résolution consulté mardi par l'AFP. C'est une idée ridicule, a dit à l'AFP un haut responsable du département d'État américain. Il a souligné que les quatre policiers impliqués dans la mort de George Floyd avaient été tous inculpés pour meurtre ou complicité et que l'État du Minnesota autorisait la retransmission télévisée des procès. L'Organisation mondiale de la santé a salué mardi une percée scientifique après l'annonce par des chercheurs britanniques qu'un médicament de la famille des stéroïdes, la dexamethasone, réduisait significativement la mortalité chez les malades gravement atteints par le COVID-19. C'est le premier traitement avéré qui réduit la mortalité chez les patients atteints par le COVID-19 sous assistance d'oxygène ou de respirateur, a commenté le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dans un communiqué. Les deux aéroports de Pékin ont annulé aujourd'hui plus de 1000 vols et nouvelle fermeture des écoles et universités après un rebond des cas de COVID-19 dans la capitale chinoise, ont annoncé les médias officiels. En République démocratique du Congo, un centre de prise en charge des patients atteints du COVID-19 a été caillassé à Bukavu, au sud Kivu. Le bâtiment a été attaqué au lendemain de la mort en ville d'un jeune homme abattu par des hommes armés non identifiés selon un communiqué du gouvernement du gouvernorat provincial. Il a fait état, sans la confirmer, d'une rumeur selon laquelle le jeune a été tué par des policiers chargés de faire observer le couvre-feu décrété par le gouverneur dans le cadre des mesures prises face au coronavirus. RDC toujours. Le ministre de la Justice a annoncé hier soir l'ouverture d'une enquête judiciaire pour élucider les circonstances de ce qu'il a appelé le meurtre d'un magistrat en charge d'un procès anticorruption sans précédent dans le pays. Le juge Raphaël Yanni Ovungu est décédé d'une hémorragie résultant d'un traumatisme crânien, a indiqué le ministre. Le procès anticorruption a pour principal accusé Vital Kamerhe, l'un des principaux collaborateurs et alliés politiques du président Félix Tshisekedi. La République centrafricaine a réalisé des progrès importants pour faire avancer les réformes politiques, estime le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres dans son dernier rapport sur ce pays, en regrettant qu'il n'en soit pas de même en matière de désarmement des groupes armés. Son rapport a été remis cette semaine au Conseil de sécurité de l'ONU. D'autres nouvelles africaines dans un instant. Signalons ailleurs dans le monde que 20 soldats indiens ont péri dans une confrontation avec l'armée chinoise dans la nuit de lundi à mardi sur la frontière disputée au Ladakh.
suite de nos informations, au Mali, dans le cadre de la recherche d'une solution à la crise politique actuelle entre le président Ibrahim Boubacar Keïta et le M5-RFP, M. Keïta a fait une déclaration devant les forces vives de la nation. C'était au Centre international de conférences de Bamako. Il a dit qu'il y aura l'application de l'article 39 des enseignants, une solution à la crise post-électorale, la formation d'un gouvernement d'union nationale. Selon le président malien, il y a des contacts avec les ravisseurs de Soumaïla Cissé. De Bamako, notre correspondant Kassim Traoré.
C'est en répondant aux préoccupations des membres du cadre d'action de médiation et de veille des confessions religieuses et des organisations de la société civile que le président Ibeka a fait certaines annonces de décrispation.
J'ai décidé de mettre fin à la crise scolaire en assurant l'application immédiate, pleine et complète de l'article 39. J'ai décidé d'engager les consultations pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Mon projet, c'est le Mali.
Ibeka envisage aussi d'apporter un apaisement dans le domaine parlementaire dans les prochains jours. Il a également parlé d'engager la réflexion sur la Cour constitutionnelle. Il dit que Soumaïla Cissé est en vie. Nous avons les preuves de vie, nous connaissons ses ravisseurs. Et s'il plaît à Dieu, il reviendra bientôt, les négociations continuent. Fin de citation.
Il a osé, véritablement osé en tant que patriote pour nous faire quitter dans le gouffre. Au fait, la décision du président est une décision très salutaire et très patriotique pour l'avenir de notre pays.
Malgré ces annonces faites par le président de la République, les responsables du mouvement du 5 juin maintiennent leur rassemblement de vendredi prochain. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, l'opposition accuse le président Roch Marc Christian Kabore d'avoir fait reculer le pays, théâtre de plusieurs attaques djihadistes, et lui demande de ne pas briguer un second mandat lors de la présidentielle de novembre. Le point avec Ekia Badou.
Roch Kabore devrait demander pardon au peuple et renoncer par dignité à solliciter un second mandat, estimé Adama Séré, président du Rassemblement des écologistes hier, lors d'un point de presse hebdomadaire de l'opposition burkinabé. Selon lui, le président Kabore a fait reculer le pays avec plus de 2000 morts, 4000 écoles fermées et près d'1 million de déplacés internes. Candidat à sa propre succession, le président Roch Marc Christian Kabore, au pouvoir depuis 2015, doit être investi le 11 juillet lors d'un congrès extraordinaire de son parti, le Mouvement du Peuple pour le Progrès. L'opposition a aussi demandé la démission du maire de Ouagadougou, Armand-Pierre Beyindé, mis en cause dans une affaire de corruption sur un achat de 77 véhicules pour sa municipalité. Le maire Beyindé, élu en 2016 sous la bannière du MPP, dit avoir respecté la légalité et agi en toute transparence dans la passation des marchés publics. Un juge a été placé sous mandat de dépôt dimanche pour avoir proposé de taire le dossier en échange de 60 millions de francs CFA.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a signé hier un décret ordonnant une réforme limitée des forces de l'ordre. C'est pour tenter de répondre au mouvement de colère contre les violences policières et le racisme qui secouent les États-Unis. Eric Manirakiza.
Donald Trump a déclaré vouloir offrir un avenir sûr aux Américains de toutes les races, religions, couleurs ou croyances. Ce décret inclut l'interdiction des prises controversées d'étranglement, sauf si la vie d'un policier est en danger, a précisé le président américain après avoir rencontré en privé des familles de victimes de violences policières ou racistes. Il encourage les milliers d'unités de police américaines à adopter les normes professionnelles les plus élevées. Ces mesures restent toutefois en deçà de ce que réclament les manifestants mobilisés depuis la mort de George Floyd, asphyxié par un policier blanc le 25 mai à Minneapolis. Donald Trump a ajouté s'opposer fermement aux efforts radicaux pour démanteler les services de police comme annoncé à Minneapolis. Le décret présidentiel ordonne que les subventions fédérales soit réservé aux unités de police qui démontrent, à travers des organismes indépendants, respecter les plus hautes normes dans la formation sur l'usage de la force et les techniques de désengagement. Donald Trump a en fait appelé le Congrès à s'accorder sur des mesures supplémentaires, mais un compromis entre républicains et démocrates semble lointain en cette année électorale.
La Minute Éco et Kiabon.
Le paysage bancaire togolais va enregistrer un nouveau compétiteur. La Banque de développement du Mali a obtenu le feu vert de la BCEAO pour disposer d'une succursale au Togo. L'information émane de la dernière mise à jour du paysage bancaire des pays de l'UMOA, publiée par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. L'enquête pour corruption présumée au Soudan du Sud visant le fabricant britannique de passeports et de billets de banque de la rue a été close et classée sans suite judiciaire, a annoncé mardi le Serious Fraud Office, autorisé de lutte contre la délinquance financière, faute d'avoir suffisamment de preuves pour pouvoir engager des poursuites devant la justice. Relativement épargnée par le coronavirus sur le plan sanitaire, l'Afrique ne le sera pas sur le plan économique, d'après Régis Fagbeni, consultant en économie et finance. L'Union européenne vient de publier une liste noire de pays considérés comme à haut risque en matière de blanchiment d'argent, comprenant 5 pays africains, dont le Botswana, le Ghana, l'île Maurice, le Zimbabwe et l'Ouganda.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous et revoilà la Première Ligue. Après 3 mois d'interruption, le championnat d'Angleterre reprend ce mercredi avec 2 matchs en retard de la 28e journée. Le premier est une affiche de gala entre Manchester City de l'Algérien Riyad Mahrez et Arsenal du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Les Gunners, 9e du championnat avant son interruption avec 40 points, ont besoin d'une victoire pour continuer de croire à la 4e place qualificative pour la Ligue des Champions et actuellement occupée par Chelsea. Une défaite des Citizens 2e avec 57 points ouvrirait la voie à un titre de Liverpool de Sadio Mané. Mohamed Salah, Naby Keïta, 1er avec 82 points dès dimanche lors du derby face à Everton, cette fois pour le compte de la 30e journée. Et puis, Naples ou la Juventus, l'Italie attribue ce mercredi à Rome à 19h temps universel son premier trophée de l'après-Covid à l'issue de la finale de la Coupe à disputer à huis clos. Les deux entraîneurs Mauricio Sarri pour la Juventus et Gennaro Gattuso pour Naples sont à la recherche de leur premier trophée en Italie. Le match a aussi des airs de revanche pour le Napoli et ses fans qui n'ont jamais vraiment pardonné à Sarri, leur ancien coach et idole, d'avoir rejoint la Juve, le rival détesté. 3 fois 2e derrière la Juve lors des 4 dernières saisons, Naples fait aussi figure des meilleurs ennemis du club turinois et l'a même privé de la coupe lors de leur dernier affrontement en finale en 2012. Et puis, l'ancien international camerounais Henri Bédimo, champion de France 2012 avec Montpellier et passé par l'Olympique lyonnais et l'Olympique de Marseille, a annoncé mettre fin à sa carrière à 36 ans. Plus de 2 ans après son dernier match professionnel, je ferme mon chapitre de footballeur professionnel. Je ne saurais partir sans remercier entraîneurs, bénévoles, personnels et sans oublier mes chers supporters. Sans vous, je n'aurais pas été à ce niveau, a écrit Bédimo sur son compte Instagram. Formé à Grenoble, le latéral gauche international, 52 sélections qui a notamment disputé la Coupe du Monde 2014 au Brésil, a joué son premier match professionnel avec Toulouse en 2003, avant d'évoluer en Ligue 2 sous les couleurs du Havre et de Châteauroux. Bédimo a retrouvé la Ligue 1 avec le RC Lens en 2010, avant de signer à Montpellier en 2011 et de remporter le championnat de France. Après une expérience mitigée à Lyon entre 2013 et 2016, il a terminé sa carrière à l'Olympique de Marseille, qu'il a licencié en juillet 2018. Il était sans club depuis.
Jacques Aristide avec vous. VO Afrique vous propose une nouvelle émission spéciale sur la maladie de Covid-19, un nouveau forum citoyen virtuel entièrement consacré à la pandémie du nouveau coronavirus à l'heure du déconfinement graduel dans de nombreux pays, y compris en Afrique. Nos invités répondent à vos questions qui touchent notamment la santé publique et l'économie. Où en est-on dans la lutte contre la maladie? Quel impact sur la vie quotidienne? Quel plan de relance de l'activité? Et comment se projette l'après-Covid? Programme spécial Covid-19, rendez-vous le samedi 20 juin et le dimanche 21 juin à 10h et 12h en temps universel sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Niger, toujours pas de liberté pour trois activistes arrêtés en mars dernier, alors qu'ils prenaient part à une manifestation pour exiger la publication d'un rapport d'audit au ministère de la Défense. L'enquête a révélé beaucoup d'irrégularités dans les marchés d'achat d'équipements pour les militaires, tandis que les organisations de la société civile exigent la libération de ces activistes. Les avocats de certains fournisseurs mis en cause dans le rapport ont, eux, fait une sortie pour rejeter les accusations portées contre leurs clients. Reportage de notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Au 90e jour d'emprisonnement de leurs camarades pour participation à une manifestation interdite projetée pour exiger la transmission du rapport d'audit du ministère de la Défense nationale à la justice, les organisations de la société civile ont, dans une déclaration, exigé à nouveau leur libération car, disent-elles, les vraies motivations de leur arrestation sont désormais connues. Moussa Tiangari, de l'association Alternative Espace Citoyen.
Aujourd'hui, avec l'étude du fameux rapport d'inspection du ministère de la Défense nationale, les Nigériens et les Nigériennes ont compris pourquoi une manifestation pacifique, régulièrement déclarée et qui n'a pas été interdite, a été brutalement réprimée avec les conséquences collatérales que l'on sait. Nous, organisations de la société civile nigérienne, tenons à lancer un appel à la mobilisation générale à toutes les forces sociales et politiques autour des questions suivantes. La libération immédiate et l'arrêt des poursuites engagées contre nos camarades. La désignation d'un juge véritablement indépendant et intègre pour prendre en charge l'épineux dossier des malversations financières et autres crimes économiques mis à jour par le rapport d'inspection du ministère de la Défense nationale. La mise à l'écart immédiate de toutes les personnes, civiles ou militaires, fonctionnaires ou responsables politiques, impliqués dans cette affaire grave de malversation au ministère de la Défense nationale et la prise de mesures conservatoires contre les fournisseurs et autres prestataires cités par le dit rapport.
Dans cette affaire de l'audit du ministère de la Défense nationale, les avocats des fournisseurs incriminés dans le rapport ont eux aussi donné de la voix ce lundi. Maître Marc Lebihan.
Dans l'audit du ministère de la Défense, trois types de manquements prétendus ont été essentiellement relevés. Il s'agit d'une prétendue absence de livraison, d'une livraison partielle et de surfacturation. D'un point de vue juridique, il n'est pas possible de rechercher, poursuivre, inculper un individu pour des faits de surfacturation. Le constat que l'on fait depuis le déclenchement de cette affaire est que nos clients qui ont pourtant livré la quasi-intégralité du matériel qui leur a été commandé sont vilipendés, stigmatisés, humiliés, injuriés, diffamés.
A noter que pour l'instant, aucune personne incriminée dans le dit rapport n'a été arrêtée. La police judiciaire poursuit encore les enquêtes. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Gabon, l'heure est au préparatif de la reprise des cours dans les universités et grandes écoles. Les établissements avaient été fermés sur ordre du gouvernement en mars dernier en raison du coronavirus. Le calendrier de rentrée du ministère de l'Enseignement supérieur a débuté cette semaine par l'opération d'identification des étudiants et la mise en place de la commission chargée de penser la réforme du téléenseignement. Les principaux syndicats des enseignants ne sont pas prêts à un retour dans les amphis et salles avant la satisfaction de certaines revendications. De Libreville, notre correspondant Ismaël Obiangze.
Pamela, étudiante en sociologie, retrouve l'université après plusieurs semaines de vacances forcées.
Que le temps était vraiment long et vu les activités qu'on a eues à la maison, il va falloir encore un peu de temps pour se mettre au pas.
Le calendrier de reprise des activités académiques et administratives divise cependant le ministère de l'Enseignement supérieur et le corps enseignant. Pour les membres de la mutuelle des étudiants de l'université Omar Bongo de Libreville, il faut reprendre les cours. Mabika Pambou, chargé de la communication de la mutuelle des étudiants de l'université Omar Bongo.
Nous avons dit au ministre que la crise entre papa et maman, ce sont les enfants qui prennent un coup. Donc nous attendons à ce que les deux parents, donc le gouvernement et les enseignants, s'asseyent pour résoudre la question épineuse d'argent pour que les uns et les autres reviennent à de meilleurs sentiments.
L'administration de l'établissement a entamé le processus d'inscription et de réinscription des étudiants qui concernent cette semaine les départements de sociologie et de psychologie. La faculté des lettres et sciences humaines attend du beau monde. Patricia Essonneau, superviseur de l'opération.
Pour les deux départements de la faculté des lettres et sciences humaines, nous attendons au moins 5 000 qui ne se sont pas réinscrits. Nous en avons déjà inscrit 18 000.
Pour les enseignants-chercheurs initiateurs de l'appel au boycott du programme de rentrée universitaire, la réforme du téléenseignement exige une formation des formateurs. Mathurin Ondor, membre du syndicat national des enseignants-chercheurs.
Nous devons passer à une autre étape, c'est celle de la virtualisation de l'enseignement. Il faudrait que nous soyons aussi formés à cet outil. Et ça ne peut pas demander moins de 6 mois de travail. C'est pour cela que nous disons qu'il faut prendre tout son courage et déclarer cette année blanche tout simplement.
Pas question d'une année blanche dans les universités et grandes écoles gabonaises. Aurélia Massala, secrétaire générale de l'université Omar Bongo.
À notre niveau, nous essayons de faire participer l'ensemble des acteurs, que ce soit l'administration, que ce soit les enseignants, pour que ce saut qualitatif, parce que c'est un saut qualitatif, ce saut qualitatif se fasse dans la sérénité. Et naturellement, il prendra en compte notre environnement, nos problématiques. Et je crois que c'est progressivement que cela va se faire.
La rentrée du 14 septembre prochain dans les universités et grandes écoles risque d'être aussi compromise par cette autre exigence des syndicats de l'enseignement supérieur portant paiement de leurs arriérés de primes datant de 2014. Libreville, Ismaël Obianzé pour VOA Afrique.
Le Fonds des Nations Unies pour la population affirme que de nombreuses personnes dans le monde hésitent à se rendre dans des centres de santé de peur d'être exposés au coronavirus. Au Cameroun, un groupe de médecins effectue des visites à domicile, le premier programme du genre dans le pays. Reportage d'Anne Zouanke, repris ici par Nathalie Barge.
Jeanne Ngono, 25 ans, souffre d'un problème de santé qui nécessite une surveillance régulière. Mais elle n'est pas allée à l'hôpital depuis 4 mois par peur d'être exposée au coronavirus. Pour assurer son suivi médical, un docteur de SOS Médecins Cameroun lui rend visite à la maison.
Nous sommes déjà en sécurité à la maison par rapport à l'hôpital. Déjà, aller à l'hôpital, on ne sait pas qui on va rencontrer un jour, les taxis qu'on va prendre, on ne sait pas.
Selon le Fonds des Nations Unies pour la population, beaucoup de gens dans le monde ont peur d'aller à l'hôpital, comme Madame Ngono. Conscient de cette situation, les experts médicaux exhortent les patients à rester en contact avec les médecins et les hôpitaux. Jean-Bertolo Zambo, membre de l'Ordre des médecins du Cameroun, abonde en ce sens.
Il y a des initiatives qui peuvent apporter un plus, elles ne sont pas à rejeter. Mais ce que je voudrais dire, à mon humble avis, je crois que l'hôpital reste le meilleur endroit où le diagnostic peut être posé et les malades bien orientés.
SOS Médecins Cameroun travaille dans 5 villes. Les patients peuvent demander une consultation sur son site web ou sa page Facebook. Une visite coûte environ 34 $, autour de 20 000 francs CFA, soit le double d'une consultation à l'hôpital. Malgré cela, les demandes de visite à domicile sont passées d'une 20aine en mars à environ 100 par mois. Le groupe médical apporte une assistance en ligne aux patients, explique Fernand Balbolo, président de SOS Médecins Cameroun.
On s'est rendu compte qu'il s'agissait plus de consultations de routine qu'autre chose. Et donc, ça nous a donné l'idée de mettre sur pied un service d'assistance médicale à distance qui permettait par WhatsApp aux patients de discuter 24 sur 24, 7 jours sur 7 avec un médecin pour poser n'importe quel type de question d'ordre médical.
Tandis que la demande augmente pour ces visites onéreuses à domicile, l'état de santé des personnes à faible revenu demeure plus incertain. soins en cette période de pandémie de coronavirus.
VOA Afrique en direct de Washington.
À la suite des manifestations antiracistes déclenchées par la mort de George Floyd, statues ou plaques de rue dédiées à des personnes liées au colonialisme ou à l'esclavagisme ont été déboulonnées ou saccagées en Angleterre, en France, en Belgique ou en Italie. Le président français Emmanuel Macron a déclaré dimanche dernier « La République n'effacera aucune trace ni aucun nom de son histoire. Elle ne déboulonnera pas de statues ». Claire Morin-Gibourg a demandé à l'ancien diplomate et professeur de géopolitique, Alexandre Melnik, ce qu'il pensait de ces derniers événements.
Je pense que cette tentative d'épuration du passé qui s'attaque au statut de personnage historique, c'est une folie, c'est une furie, c'est une manifestation de la déraison à l'heure de la globalisation actuelle. Christophe Colomb, qui a découvert l'Amérique et a ouvert un nouveau chapitre de la civilisation humaine, doit-il être jeté à la poubelle de l'histoire aujourd'hui? C'est un non-sens. Faut-il réserver le même sort à l'un des pères fondateurs des États-Unis, George Washington, sous prétexte qu'il était raciste, esclavagiste? Non, c'est totalement absurde, c'est une aberration, c'est une cécité historique, conceptuelle. L'histoire, c'est un bloc indissociable. La réécriture de l'histoire à l'aune de la situation d'aujourd'hui, c'est toujours une impasse. C'est toujours une impasse dangereuse, car porteuse de nouvelles guerres.
Mais comprenez-vous l'émotion des manifestants ?
Plutôt, oui, c'est le défoulement. Je comprends cet irrésistible désir de l'humain d'enterrer son passé. À titre personnel, il y a 30 ans à peu près, en tant que diplomate, j'avais déjà assisté en direct au massacre des effigies de Karl Marx et de Vladimir Lénine. C'était dans un pays, l'URSS, qui avait réalisé leurs œuvres néfastes. Qu'en reste-t-il aujourd'hui ? C'est plutôt un vide, non ? Une perdition teintée de regrets. Une impasse, je dirais même pire, parce que quand on se prive de mémoire, on construit son propre suicide.
Quelles sont les meilleures solutions pour respecter le devoir de mémoire selon vous ?
C'est un travail de très très longue haleine. Les solutions se reposent sur deux axes, l'éducation et la loi. Il faut rappeler une chose, de la Renaissance à la chute du mur de Berlin en 1989, c'est l'Occident qui dominait le monde. Par conséquent, ces cinq siècles durant, c'est l'Occident qui rédigeait l'histoire de l'humanité, qui glorifiait ce que Kipling appelait le fardeau de l'homme blanc, qui était prétendument supérieur aux autres humains. Mais le 21e siècle a sonné le glas du monopole de l'histoire détenu par les Occidentaux. Que faire dans cette nouvelle situation pour essayer de passer du choc au dialogue de civilisation ? Éducation à l'échelle planétaire, ce principal combat contre l'ignorance et pour les esprits et les cœurs des jeunes générations auxquelles appartient l'avenir. Une éducation passé, présent, avenir, sans phare, sans filtre, ni préjugé, honnête, lucide, authentique, la seule capable d'extraire la vérité des tenailles de l'ethnocentrisme et de remettre au centre de tout l'être humain, indépendamment de sa couleur de peau.
Alexandre Melnik, auteur et professeur de géopolitique à ICN Business School France.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 474 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 474 de Canal+.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde d'aujourd'hui. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sidoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.